Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On commence donc par le département de la Haute-Savoie. Regardez demain, ce sera encore des rayons de soleil avec des averses de pluie du côté d'Annecy jusqu'à 12 degrés pour ce week-end. Également des averses de pluie et du soleil du côté de Chamonix-Mont-Blanc jusqu'à 9 degrés. Également du côté de Thonon-les-Bains, ça sera pas de pluie mais entre nuages et soleil avec des températures toujours assez douces quand même.
Un peu de soleil, de la pluie mais pas de neige, c'était la météo du week-end dernier en Haute-Savoie sur le site La Place du Village TV. Pas de neige dans les Alpes, il y en a quand même un peu sur les hauteurs, assez pour s'adonner aux joies du ski, mais les effets du réchauffement climatique interrogent sur l'avenir économique des stations de montagne. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. C'est un bruit que j'adore, marcher dans la neige fraîche. Ça ne m'arrivait pas souvent en Bretagne quand j'étais petit. Ça n'arrive pas beaucoup non plus cette année dans certaines communes de Haute-Savoie dans les Alpes. Il faut monter de plus en plus haut pour trouver de bonnes conditions pour skier. Bonjour Anne Fetz.
Bonjour Pierrick.
Vous vous occupez des sujets environnement. Aux Échos, vous êtes allé à la montagne il y a quelques jours en Haute-Savoie, à Combloux et à Saint-Gervais. Pourquoi avoir choisi ces stations ?
Pour être honnête, en fait, un peu par hasard, parce que je voulais des stations villages, de moyenne montagne, parce que ce sont les stations les plus touchées, finalement, par le réchauffement climatique. Mon idée, c'était vraiment de faire un reportage sur la façon dont ces stations de moyenne montagne sont touchées aujourd'hui par le réchauffement climatique et comment elles s'adaptent ou pas, ce qu'elles prévoient de faire, etc. Donc là, ces deux stations répondaient bien à cette demande. Ce sont deux stations qui existaient avant le ski, mais qui se sont développées avec le ski. À Mairie de Combloux, il me disait, il y a deux ou trois générations, c'était la misère. Donc, elle, c'est vraiment grâce au ski. À Saint-Gervais, il y a les thermes. Donc, ça a porté le bourg pendant tout le 19e siècle. Et le ski est arrivé que dans les années 30. Mais maintenant, c'est une grosse partie de l'économie. Donc, mon idée, c'était pas du tout de faire une enquête exhaustive sur l'adaptation de la montagne au réchauffement climatique. C'était plus de raconter comment les gens sur place, dans ces stations, vivent le phénomène, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment chose vue et entendue. Et ça n'a pas du tout vocation à être ni de grandes leçons, ni une analyse exhaustive de comment la montagne s'adapte.
L'hiver en montagne, on pense neige, ski, luge et vin chaud. Mais alors, sur place, mi-février, il était plus question apéro spritz que vin chaud et tartiflette.
C'est ça. Cette année-là, c'était vraiment pas de neige dans les bourgs du tout. Donc, c'était effectivement terrasse, il faisait beau, il faisait 15 degrés à l'ombre. Même les gens sur place disaient quand même c'est incroyable. Enfin, tout le monde était très stupéfait. Donc, c'était pas du tout ambiance du village tout blanc. Les paysages, c'était de l'herbe jaune ou marron, avec ce qu'on voit un peu sur les photos, les grandes allées de neige artificielle pour pouvoir quand même descendre jusqu'aux stations basses. Là, il n'avait pas neigé depuis janvier. Il n'y avait pas de neige en dessous de 1400-1500 mètres. Donc, c'était quand même un peu spécial comme ambiance soi-disant estivale. C'est la première semaine des vacances d'hiver, pas de neige.
Vous avez rencontré d'ailleurs des touristes venus profiter des joies des sports d'hiver, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Alors en fait, il y avait quand même, je dis pas de neige, il y avait de la neige au-dessus de 1500 mètres. Mais pour avoir de la bonne neige, il fallait monter à 1700 ou 2000 mètres. Enfin, il fallait monter assez haut. Donc, les touristes que j'ai rencontrés, ils ont quand même pu skier. Ceux à qui j'ai parlé, ils étaient basés à Saint-Gervais. Donc, ils ont skié sur Saint-Gervais pendant deux jours sur la semaine. Puis au bout d'un moment, ils ont trouvé que les pistes où il y avait de la bonne neige étaient trop rares, que c'était trop beau. Petits, et donc ils sont allés au Contamine tous les jours après, où là, il y a plus de neige, la station est en fond de vallée, c'est mieux enneigé, la neige était meilleure.
Quel est l'impact, justement, du manque de neige sur la saison touristique dans ces deux stations ?
Alors en fait, cette année, tous les professionnels que j'ai vus du tourisme me disent que il y a pas vraiment d'impact, que le taux de remplissage est bon, qu'il n'a même jamais été aussi bon. Ils m'ont donné des chiffres, que le domaine est ouvert. Alors, je me souviens plus des chiffres, mais je crois que Combloux c'était 80% du domaine ouvert, à Saint-Gervais 100%. Donc, ils minimisent le problème. Il y a des canons à neige, donc ils minimisent le problème pour cette année. Je crois pas qu'il ait neigé d'ailleurs depuis. Hein. Il a neigé un peu partout, mais pas là-bas, j'ai regardé. Alors, en même temps, ils reconnaissent qu'il y aura de plus en plus un problème. Parce que, par exemple, à Combloux, l'année dernière, ils ont ouvert que mi-janvier. Donc, 4 semaines de haute saison touristique où ils ont été fermés. Ça s'était déjà produit en 2016. Hein. Et donc, la conséquence, c'est qu'ils doivent emmener les enfants skier. Une année, je crois, ils ont emmené les enfants skier aux Contamines, dans des bus, quand même 30 minutes de route. L'année dernière, ils ont proposé à tous les enfants qui étaient inscrits à l'école de ski de faire d'autres activités. Donc, ils se sont transformés en animateurs scolaires un peu. Et donc, il y a quand même 70% des enfants qui étaient inscrits, qui sont restés, hein, qui n'ont pas annulé. Donc, ça, c'était pas mal. À Saint-Gervais aussi, là, ils vont fermer une bonne partie du domaine skiable le 1er avril, alors que normalement, ils ferment le 15 avril. Alors, il y a une raison, il y a un équipement qu'ils doivent réparer. Mais quand même, le maire m'a dit que c'était aussi parce que, au-delà, c'était difficile de rentabiliser les équipements.
Bon, s'il n'y a pas de neige, il y a au moins le bon air de la montagne, c'est toujours ça. Mais il n'y a pas que les professionnels du ski, il y a les professionnels du tourisme qui profitent aussi de cette saison d'hiver.
Oui, alors en hiver, il y a, par exemple, moi j'ai rencontré un accompagnateur de haute montagne. Donc traditionnellement, en hiver, lui, ce qu'il fait, c'est des balades en raquette. Et il avait monté une activité d'hébergement de touristes en igloo. Donc il avait 7 igloos qui, en haute altitude, hein, 1800 mètres. Les touristes pouvaient passer une nuit dans cet igloo, il en avait 7, ça marchait bien, les gens étaient contents. Et l'année dernière, il a fait tellement doux que les parois ont un peu fondu. Il a eu vraiment du mal, il a galéré, il m'a raconté qu'il avait mis des bâches pour éviter que le soleil fasse trop fondre les igloos, etc. Et donc là, cette année, il a eu trop peur de recommencer. Donc cette année, pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas construit ses igloos. Donc ça, c'est pour l'hiver. Donc, il y a un impact, par exemple, pour lui. Et sinon, il y a aussi un gros impact pour les guides de haute montagne parce que le réchauffement climatique fait fondre le permafrost, qui normalement, c'est du sol qui est gelé toute l'année et qui maintient les rochers entre eux. Et le massif du Mont-Blanc, c'est un massif très granitique. Il y a des gros blocs de granit qui tiennent grâce au permafrost. Et donc, qui commencent à... Enfin, en tout cas, il y a des chutes de pierres et ils ont peur des chutes de pierres. Donc, il y a des courses qu'on ne peut plus faire en été, qu'il faut faire à d'autres saisons, etc. Donc, les guides de haute montagne sont obligés de se creuser la tête pour retrouver des courses, pour répondre à la demande de leurs clients. Ils m'ont raconté, ils ont des clients qui les appellent en disant, on vient du 1er au 15 juillet, on voudrait faire telle course. Et ils sont obligés maintenant de leur dire, c'est pas sûr que ça soit possible. Donc, il faut s'adapter.
Bon, tout à l'heure, hein.
Ambiance ski sur une piste rouge à Combloux en mars 2022, la Jorasse à 1757 mètres. Là, il y avait de la neige, mais on parle ici de stations de moyenne montagne. On voit que le réchauffement climatique peut aussi avoir un impact sur le tourisme en été. Quel regard ces communes portent-elles sur le manque d'enneigement ?
Alors en fait, ça dépend qui. Globalement, les gens là-bas sont bien conscients du réchauffement. Bon, il y a juste le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex. Lui, il a commencé par m'expliquer qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, juste un changement climatique comme il y en avait toujours eu. Bon, en fait, s'il y a bien un réchauffement climatique, le fait que l'enneigement va baisser, c'est un fait établi par les scientifiques du GIEC. Il y aura de plus en plus d'années sans neige. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de neige, plus jamais. C'est pas uniforme. Hein. Le réchauffement climatique, il ne faut pas confondre avec la météo. Mais il y aura de plus en plus d'années sans neige et les précipitations seront moins bien réparties dans l'année. Enfin, c'est tout ce qui est vraiment expliqué dans les rapports du GIEC, qui est une compilation de rapports de scientifiques. Alors, les élus que j'ai vus, en fait, eux, leur Bible, c'est un peu une étude qui fait référence, qui s'appelle Clim Snow, qui est faite par des scientifiques de Météo France, de l'INRAE et de DIA4S, et qui fait en fait des projections sur l'enneigement sur les prochaines décennies dans les territoires particuliers. Donc, en fonction de l'exposition de telles pentes, etc. Et donc, quand je suis allée les rencontrer, ils avaient tout ça sur leur bureau. Alors, ils ne voulaient pas trop me dire ce qu'il y avait vraiment dans cette étude, précisément. Je pense que c'est un secret bien gardé. Mais en tout cas, on sent bien que ça les préoccupe, que c'est vraiment une préoccupation de tous les instants. Mais en même temps, ils sont un peu désemparés. Ils ne savent pas très bien quoi faire.
Et moins de neige naturelle, plus de neige artificielle gourmande en eau. Un rapport de la Cour des comptes a appelé le 6 février à une accélération de la transition des activités des stations de ski. Un rapport alarmant. Que préconisait-il et comment a-t-il été accueilli par les maires des communes que vous avez visitées ?
Ah oui, effectivement, il y a eu ce rapport de la Cour des comptes juste une semaine avant ma visite. Donc eux, ils ont vraiment fait un travail exhaustif en regardant toutes les stations de moyenne montagne. Ils ont un regard assez sévère sur la prise de conscience globale des élus locaux de cette menace qui pèse sur l'économie de leur commune. Donc eux, ils ont bien rappelé aussi qu'en 2050, l'épaisseur moyenne du manteau neigeux serait réduit de 10 à 40% en moyenne montagne. Donc ça, c'est un fait scientifique. Bon, alors, ils n'ont pas vraiment proposé de solution, mais ils ont constaté que ce qui était fait jusqu'à présent était largement insuffisant. Et leur conclusion, c'est vraiment qu'il y a péril en la demeure pour de nombreuses stations de moyenne montagne. Alors là-bas, sur place, en fait, ce rapport a été assez mal reçu. Alors pas par tout le monde. J'ai vu quand même des gens qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord sur le constat. Mais quand même, les élus l'ont assez mal pris. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de leçons à recevoir de Paris. Il y en a même un qui a qualifié le rapport de torchon. Donc je pense qu'ils n'ont pas envie qu'on leur dicte ce qu'ils ont à faire. Par exemple, justement sur cette question de l'eau, la Cour des comptes est assez critique sur les canons à neige. Donc, ils expliquent que c'est de la maladaptation, notamment parce qu'elle consomme beaucoup d'eau. Alors, les élus locaux là-dessus, ils démontent totalement cet argument de l'eau. En fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est un moyen de stocker l'eau plus longtemps, comme la neige est un moyen de stocker l'eau plus longtemps. Sinon, c'est de l'eau des torrents ou de la pluie qui partirait tout droit à la mer. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, pour les canons à neige, c'est pas de l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques. Ce sont des, il y a des retenues collinaires, c'est de l'eau soit qui est captée des torrents ou alors de l'eau de pluie. Mais donc, c'est de l'eau qui sinon partirait effectivement à la mer directement. Donc, je trouve que c'est un argument qui s'entend. En revanche, oui, les canons à neige, c'est très énergivore. Donc, bon, là-dessus, ils ont des réponses peut-être un peu moins convaincantes. En tout cas, Jean-Marc Payès, lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que il y avait plein d'énergie hydraulique sur place. Bon, alors qu'on sait bien que l'énergie, c'est pas local, ça va sur le réseau national. Donc, mais après, bon, le directeur des remontées de Saint-Gervais, lui, me disait qu'il n'était pas choqué qu'on utilise de l'énergie pour faire vivre des gens en montagne en hiver. Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est combien de temps ça peut durer. Est-ce que c'est vraiment tenable?
Mais pour que les enneigeurs fonctionnent, encore faut-il qu'ils fassent entre moins 5 et moins 2 degrés. Or, c'est un peu juste en ce moment. Même la nuit, vous a confié un conseiller municipal de Combloux. Pour la Cour des comptes, les projections climatiques montrent que la production de neige ne suffira plus, dans un nombre croissant de stations, à assurer la pérennité du ski à moyen, voire à court terme. La Cour qui s'interroge aussi sur les subventions et coups de pouce de l'État qui seraient mal orientés en favorisant leur dépendance au ski. Elle appelle donc ces stations à poursuivre l'augmentation de leurs tarifs.
Dis donc, papa, tu nous fais une ristourne, là,
hein? Bof.
Un petit 10%?
Pas de problème. Je vais quand même leur demander, mais enfin...
Ah, il me semble que ce serait commerçant avec ce qu'on a pris.
C'est la moindre des choses.
Ah. Non!
Bon, ça va pas être possible, hein. À cause de... Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent, enfin, je t'expliquerai.
Alors, il y a des tentatives de diversification, bien sûr, à la montagne. Est-ce que c'est une solution, justement, pour pallier à ce manque de neige, notamment dans les stations de moyenne montagne?
Alors, effectivement, on voit naître plein d'activités nouvelles. Hein. Alors, moi, quand j'y étais, il y avait des montgolfières dans le ciel, des parapentes. Il y a aussi les thermes à Saint-Gervais, j'en ai parlé. Du VTT, de la trottinette, du saut à l'élastique, de la luge quatre saisons, donc même en été, via ferrata, canyoning. Ils essayent aussi de développer le tourisme culturel. Il y a de très belles églises baroques dans la région. À Combloux, ils ont créé un escape game, le mystère du chalet. Voilà. Donc, ils font plein de choses intéressantes. Dans ces stations-là, ils ne font pas de gros investissements comme ce qu'il peut y avoir ailleurs, donc les aquaparks, etc. La Cour des comptes, là aussi, avait étudié ces tentatives et montré que pour l'instant, elles étaient toutes déficitaires. Donc, ces stations Saint-Gervais-Combloux, ils disent qu'ils ne le feront pas. Quand même, par exemple, quand ils changent un télésiège, ils essayent de faire attention à ce que ça soit adaptable pour l'été. Par exemple, qu'on puisse mettre des VTT ou ils changent un télésiège pour un télécabine pour monter des VTT. Bon, après, c'est quand même difficile parce que les gros revenus restent l'hiver. À Combloux, ils m'expliquaient que sur les revenus du tourisme, il y avait 32 millions en hiver et 6 millions en été, alors qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts pour se diversifier. Les remontées mécaniques, ça rapporte 6 millions d'euros en 6 semaines. Donc, la personne que j'ai vue à la mairie me disait, il ne faut pas se mentir, on ne retrouvera pas un modèle comme ça dans l'avenir. Mais on n'a pas trouvé le modèle qui permettrait même de se diversifier.
Le réchauffement climatique menace l'équilibre économique de ces stations de moyenne montagne. Alors certaines s'adaptent en essayant d'étendre la saison touristique. En été, il n'y a pas que la mer. Mais ce que j'ai découvert aussi en lisant votre enquête pour Les Échos, Anne, c'est que d'autres activités économiques sont aussi pénalisées, et notamment l'agriculture.
Alors oui, l'agriculture est très impactée. Alors ici, dans la région, ce sont des éleveurs. Et pour eux, le premier problème, c'est l'eau. Ils doivent monter de l'eau dans les alpages de plus en plus souvent. Hein. Les abreuvoirs sont alimentés par des sources. Et ces sources sont elles-mêmes alimentées par la fonte des neiges. Donc, mécaniquement, s'il y a moins de neige, les sources se tarissent beaucoup plus tôt dans l'année. Avant, elles se tarissaient quasiment jamais. J'ai vu un agriculteur là, dans cette vallée qui me disait que son arrière-grand-père avait dû monter de l'eau dans l'alpage à 1700 mètres d'altitude une fois, son grand-père trois fois, et lui et son père depuis 2003, c'est tous les deux ans. Donc ça veut dire camions, des frais, des citernes sur place, etc. Donc pour les éleveurs qui ont 50 ou 60 vaches, ça fait 5000 litres d'eau par jour. Donc ça, c'est le plus gros problème. L'autre problème, c'est le fourrage pour la nourriture des animaux. Donc là, c'est le pays du reblochon qui doit respecter des critères précis pour leur appellation d'origine protégée. Et donc les vaches doivent être nourries avec du fourrage local et elles doivent pâturer pendant au moins 150 jours. Et donc normalement, les éleveurs, ils ont des champs justement destiné au fourrage. Et là, ça fait pareil plusieurs années qu'ils n'arrivent plus, notamment au moment de la deuxième coupe, ils n'arrivent plus à obtenir assez de fourrage pour leurs animaux, donc ils sont obligés d'en acheter. Donc là aussi, c'est des frais supplémentaires.
Le manque d'eau est un problème, mais ce n'est pas le seul souci des agriculteurs. Ils sont aussi pénalisés par la hausse des températures. Pourquoi ?
Parce que les vaches supportent très mal finalement la chaleur. Les agriculteurs que j'ai vus m'ont raconté qu'en 2022, pendant la canicule, ils avaient pu faire jusqu'à 40 degrés au soleil sur des pâturages, même à 1700 mètres d'altitude. Et donc, il y en a un qui me racontait que ces vaches avaient perdu 100 kilos, donc c'est un sixième de leur poids, et avec des conséquences importantes aussi sur la production de lait. Lui me disait que cette année-là, il avait eu 5 litres de moins par vache par jour sur 25 litres habituellement.
Donc, une belle perte de productivité. Comment les éleveurs s'adaptent-ils ?
Alors, pour l'eau, ils essayent de faire des réserves en altitude. Hein, donc, souvent, ils travaillent avec les mairies parce que leurs alpages appartiennent aux municipalités et ils les louent. Donc, il y a eu plusieurs retenues d'eau ou réserves d'eau qui ont été financées par les mairies. Et parfois, ce sont les mêmes retenues d'eau qui servent aux canons à neige en hiver. Donc, en hiver, c'est pour faire de la neige artificielle. En été, ça sert d'abreuvoir pour les animaux. Et pour le fourrage, ils commencent à tester dans la vallée des plantes qui viennent d'Afrique, qui supportent mieux la chaleur. Donc, il y a le sorgho et depuis plus récemment, du moa, qui est aussi une plante fourragère qui supporte mieux la chaleur.
La montagne, ça vous gagne!
Mais la montagne sans neige en hiver, c'est plutôt perdant. Dans les Pyrénées, elle a fini par tomber en masse. C'est ce que m'a expliqué Laurent Marcaillou, correspondant des Échos dans le Sud-Ouest.
Oui, il a enfin neigé à partir du 24 et 25 février. Cela a rajouté un manteau blanc, ou apporté un manteau blanc plutôt, de 30 à 50 cm sur les montagnes qui étaient très dégarnies cet hiver, avec très peu de précipitations et des températures parfois de plus de 15 degrés en montagne.
Est-ce qu'elle n'arrive pas trop tard pour sauver la saison ?
La neige est arrivée au milieu des vacances scolaires de la zone A, donc Bordeaux, Limoges, Lyon, etc. Et juste à temps pour les vacances de la zone B, Marseille, Lille, Nantes, etc., qui se déroulent du 24 février au 10 mars. Mais au-delà des vacances, les stations restent encore ouvertes jusqu'à la fin mars et attirent la clientèle de proximité de Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Barcelone. Donc on peut dire que l'enneigement aura profité un mois. Mais pendant l'essentiel de la saison, les skieurs ont surtout eu droit à de la neige de culture.
Qu'en est-il de la fréquentation ?
Les grandes stations ont évité la casse grâce à leurs canons à neige qui ont permis de garder une partie des pistes à l'état skiable. Ainsi, le directeur de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000 dans les Pyrénées-Orientales, Jacques Alvarez, dit que cette année, c'est l'une des trois meilleures saisons de son histoire. Et il espère dépasser les 500 000 journées skieurs, donc tout près des 529 000 journées skieurs de la saison dernière, où à l'époque, la station avait battu son record de recettes de remontées mécaniques à près de 15 millions d'euros. Donc la station catalane a un parc de plus de 500 canons à neige qui couvre 93% du domaine. Ils sont alimentés par le barrage hydroélectrique des Bouillouses et cela lui permet d'ouvrir très tôt en décembre pour attirer les skieurs espagnols et aussi de maintenir une grande partie des pistes ouvertes malgré le climat méditerranéen. Alors, Malgré le manque de neige, la station de Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées, qui est exploitée comme fonds romeux par la société privée Altiservices, n'affiche qu'une baisse de 8% de sa fréquentation au début mars, avec, disent-ils, 400 000 journées skieurs un mois avant la fermeture. L'an dernier, elle avait réalisé une saison normale avec 550 000 journées skieurs. Et en fait, le directeur de la station, ce matin, disait en conférence de presse qu'ils avaient été capables de maintenir la moitié du domaine skiable cet hiver, soit 50 km de piste, alors qu'il n'y a quasiment pas eu de chute de neige pendant la saison. C'est une très belle performance et ça nous rassure sur la possibilité de fonctionner avec le réchauffement. C'est félicité donc le directeur de Saint-Lary, Hakim Boufaïd. Et pour y parvenir, la station a investi évidemment dans la production de neige de culture et a aussi amélioré la précision du damage en utilisant le GPS et des capteurs de mesure de la hauteur de neige sur les dameuses. Même avec 50% des pistes fermées, la clientèle est restée fidèle puisqu'il y a eu des journées à plus près de 10 000 skieurs et elle a pu maintenir la station ses 230 emplois cet hiver sans chômage partiel. Et le taux d'occupation des hébergements a atteint quand même 76% à Noël et 78% aux vacances d'hiver, en dépit du faible enneigement.
Un discours plutôt optimiste sur le présent, mais l'avenir s'annonce moins blanc. Le dernier rapport du GIEC prévoit qu'il n'y aura plus de neige dans les Pyrénées en 2100. Alors 2100, c'est encore loin. Comment les stations des Pyrénées se préparent-elles face à la baisse tendancielle de l'enneigement ?
Alors, tout dépend de la taille des stations et des moyens qu'elles ont. Mais malgré le réchauffement climatique, elles continuent d'investir dans le ski. En fait, elles commandent des études de Clim Snow qui prévoient l'enneigement non pas seulement à 2100, mais se basent évidemment sur 20 ou 30 ans, la durée d'amortissement des remontées mécaniques. Et donc, elles continuent d'investir dans des télésièges plus modernes, en essayant parfois, quand c'est possible, de remonter le domaine skiable de 200 mètres, comme dans la station de Gourette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette station, gérée par le département, investit 15 millions d'euros en 2023 et 2024 pour s'adapter au réchauffement, avec notamment une nouvelle télécabine qui ouvrira à la fin de l'année, qui déplacera le front de neige à 1600 mètres d'altitude, c'est-à-dire 200 mètres au-dessus de la station actuelle. La direction dit qu'en remontant le front de neige, elle pourra assurer une bonne skiabilité 100 jours par an. Alors, il y a d'autres cas. Les stations de Font-Romeu Pyrénées 2000 continuent d'investir dans les remontées mécaniques. 30 millions d'euros d'investissement à Font-Romeu et 25 millions d'euros à Saint-Lary entre 2022 et 2024. Elles se basent toutes les deux sur les fameuses études Clim Snow qui prévoient des saisons à 110 jours de neige pendant 30 ans encore, ce qui paraît peut-être un peu optimiste. Malgré le réchauffement du climat, il y a toute une vague d'investissements. En ce moment, le Grand Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées, qui est aussi une grande station, investira 19 millions d'euros entre 2023 et 2025 pour construire deux télésièges et refaire un restaurant d'altitude.
Laurent, que font ces stations pour s'orienter un peu plus vers le tourisme d'été?
Elles investissent dans la randonnée, le balnéaire aussi, et les pistes de VTT notamment, avec des remontées mécaniques qui peuvent porter des vélos. La station de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées investira dans une nouvelle remontée d'ici à 2026 qui permettra à ses 30 000 visiteurs en été, pas en hiver, de partir en randonnée ou de dévaler les pistes de VTT. Il faut aussi passer au parc immobilier qui est vieillissant et donc certaines stations cherchent des moyens pour rajeunir les logements et apporter des animations et des services en montagne. Les stations prévoient aussi des équipements qui servent autant l'été que l'hiver, car il y a plus de monde dans la montagne en été qu'en hiver quand même. Ainsi, le Grand Tourmalet ouvrira cet été la Tour des Géants, qui proposera des activités d'escalade et de tyrolienne. Plutôt que d'investir dans les remontées, la station d'altitude de Pio-en-Galy, toujours dans les Hautes-Pyrénées, a engagé un grand projet de requalification immobilière et de diversification qu'elle a appelé Natura Pio. Le projet dessiné par l'architecte Jean-Michel Villemotte prévoit la requalification globale de cette station à l'architecture moderne mais vieillissante. Cette année, les zones commerciales ont été refaites pour 6 millions d'euros. Un grand appartement hôtel de 4 étoiles et 300 lits ouvrira l'an prochain et coûtera 19 millions d'euros. Il sera notamment financé par l'agence de construction de la région Occitanie. Le programme se poursuivra jusqu'en 2036 par la création d'autres services, de boucles pour les balades en chien de traîneau, de sentiers pédagogiques, d'un espace culturel, etc., etc. Ce programme est évalué à 50 millions d'euros entre 2018 et 2036. Et il paraît très important pour une petite station qui n'a enregistré que 5 millions d'euros de recettes la saison dernière pour les remontées mécaniques.
À défaut de flocons de neige, beaucoup d'investissements tombent donc sur la montagne. Merci Laurent Marcaillou, correspondant des Échos dans les Pyrénées. Et merci Anne Fetz, spécialiste de l'environnement aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.